Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez qu'un peuple et qui maintenant vous êtes un peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu de miséricorde, qui êtes maintenant et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen.
Chers amis, chers enfants, c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous en ce sabbat matin pour offrir à Dieu ce culte. Et je crois qu'il est prêt à recevoir bien plus que nos expressions de lèvres, mais qu'il est prêt à recevoir notre cœur tout entier. Et qu'il déverse sur son peuple ici assemblé ces nombreuses bénédictions spirituelles dont nous avons tant besoin pour cheminer avec lui jusqu'à ce que Jésus, notre Sauveur, revienne. Le texte qui a été lu tout à l'heure se trouve dans 1 Pierre au chapitre 2. Je vous invite à prendre le texte avec moi, mais en même temps, visualisons le texte qui apparaît sur l'écran. 1 Pierre chapitre 2. Considérons, si vous voulez bien, les versets 9 et 10, où l'apôtre Pierre va ici affirmer d'une manière absolue ce que nous sommes devenus en Jésus. Et si ce que nous sommes devenus, nous le devons parce que Jésus, notre Sauveur, est mort, qu'il est ressuscité. Et c'est sur la base de son sacrifice et en vertu de sa résurrection que nous sommes ce que nous sommes en lui. Et en disant ceci, Pierre nous dit déjà, en mentionnant vous, vous et moi, nous tous, au contraire, autrement dit, nous sommes le contraire de quelque chose qui existe. Et le contraire se trouve au verset 7 et 8. Vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Ça, c'est la première partie de ce verset. Dans le but ultime et absolu. Nous sommes ce que nous sommes dans un but ultime. Et si cette deuxième partie du verset n'est pas accomplie, alors la première partie n'a pas de sens. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La difficulté pour les croyants que nous sommes et pour le peuple adventiste réside dans cette deuxième partie. Afin que nous annoncions, non pas une église, non pas ses doctrines, quoique bon, même pas son enseignement ni ses principes, mais nous annonçons une personne. Méfions-nous de nous tromper de message et d'annoncer en premier une église. Mais nous annonçons les vertus, les attributs, les bénédictions que peuvent accorder cette personne, Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il nous a appelés. S'il ne nous a pas appelés, il n'y a pas de réponse de notre part. Et parce que nous avons répondu, nous sommes passés des ténèbres, de la puissance de Satan, à son admirable lumière. Et remarquez avec moi les mots qui sont soulignés. Race, qui est suivie d'élus, d'élections. Nous ne sommes pas dans une phase maintenant d'appel, mais nous sommes en ces temps qui sont les derniers dans une phase d'élection. Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Chers frères et sœurs, nous sommes en cette période de l'histoire de ce monde où chaque croyant adventiste est en train de s'élire quelque part. Nous sommes un sacerdoce suivi de ce qualificatif royal, nous sommes une nation sainte, nous sommes un peuple acquis à un précieux prix, le sang de Jésus. Passons, si vous voulez bien, en revue, dans un premier temps, ce que signifie tout ce que nous venons de voir. Race, nation, peuple, sacerdoce, quatre. D'où qu'ils sont et d'où qu'ils viennent. l'ensemble des enfants de Dieu, des croyants, aux quatre coins du monde, nord, sud, est, ouest, ils ont les mêmes caractéristiques universelles. Les mêmes. Peu importe nos origines, peu importe où nous sommes, peu importe d'où nous venons, mais en Jésus, ce qui fait nos dénominateurs communs, nous avons les quatre caractéristiques universelles, les mêmes des enfants de Dieu. Nous sommes une race parce que nous avons foi en Dieu et notre foi nous est commune. Il y a une seule foi et parce que nous avons la même foi, nous constituons une race. Nous sommes un peuple parce que nous avons le même Dieu, l'Éternel des armées. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Nous sommes une nation sainte parce que nous aspirons en un même territoire, la nouvelle terre, notre patrie. Et enfin, nous sommes un sacerdoce royal parce que en Jésus et en vertu de ce qu'il a fait pour nous, nous sommes tous maintenant le temple de Dieu. Et c'est sur ce dernier point que j'aimerais attirer notre attention ce matin. Un sacerdoce. À partir d'une vérité du sanctuaire, nous allons passer en revue les éléments que constitue ce sacerdoce intérieur. Le lieu saint et l'élément qui est dans ce... Le lieu très saint, l'élément qui est dans ce lieu très saint. Le lieu saint, l'autel des parfums, le chandelier. Et après, nous irons dans le parvis, l'autel des holocaustes. Nous sommes un sacerdoce parce que nous sommes le temple de Dieu. Trois phases dans le sanctuaire, le temple, la maison ou l'habitation. Il y a le souverain sacrificateur, le sacrificateur. Il y a le sacrifice. Et il y a le lieu elle-même, le lieu lui-même, le sanctuaire. En Jésus, nous englobons tout l'aspect du sanctuaire. En Jésus, nous sommes le temple, donc un lieu dans lequel Dieu doit et devrait résider. Nous sommes sacrificateurs à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés par son sang et qui a fait de nous pour Dieu un royaume et des sacrificateurs. Parce que nous avons un sacrifice à offrir. Paul dit dans Romains, le sacrifice que nous avons à offrir, offrez vos corps par les compassions, je vous en exhorte. Offrez vos corps par les compassions de Christ, afin que ce soit un culte raisonnable de votre part. Nous sommes le temple parce que Dieu désire résider en nous. Nous sommes prêtres parce que nous avons un sacrifice à offrir. Nous sommes nous-mêmes le sacrifice de Dieu, offrir nos vies et nos corps. Et en ce sens, nous sommes un sacerdoce royal. Vous êtes un sacerdoce royal. 2 Pierre au chapitre 2, donc verset 9. Et Pierre va dire ceci, vous au contraire, et le contraire, je l'avais souligné tout à l'heure au verset 7 et au verset 8. L'honneur est donc pour vous qui croyez, c'est ce que nous sommes. Et voilà la première catégorie de personnes. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Nous avons une première catégorie mentionnée dans le verset 8. Ceux qui sont incrédules et qui n'ont pas accepté Jésus comme pierre de fondement dans leur vie. Ils bâtissent leur vie sans Christ. Ils ignorent, ils méconnaissent, volontairement ou non, la personne de Jésus. Et ils bâtissent leur vie sans Jésus. Tandis que nous avons pris comme fondement, comme fondation, le rocher des siècles, Jésus. Et ceux qui bâtissent leur vie sans Jésus, d'une manière volontaire, périront. Une pierre a pour but deux choses. Soit on est fatigué, on s'assoit et on se repose. Elle sert à cela, une grosse pierre. Ou alors, elle nous tombe dessus, comme sur la route littorale. Vous voyez. Mais nous avons décidé de prendre Jésus comme pierre pour appui. Et ceux qui sont incrédules, ils vont recevoir cette pierre. Et ce sera une pierre d'achoppement sur laquelle ils vont s'y heurter et ils vont s'y briser. Tout cela au jugement dernier. Je disais donc que nous sommes le sanctuaire de Dieu. Vous êtes un sacerdoce royal. Permettez-moi de vous indiquer le texte que nous allons lire maintenant et qui se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 3e. 2 Corinthiens au chapitre 3. Et nous lirons les versets 2 et 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Nous lirons les versets 2 et 3.
C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs.
Le texte qui vient d'être lu. Je vous invite à entrer dans le lieu très saint. Et que découvrons-nous dans le lieu très saint? Un coffre qu'on appelle généralement l'arche et qui contient les 10 paroles de l'Alliance, la verge d'Aaron et une portion de manne. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le premier objet qui s'y trouve, les tables de la loi que Dieu met dans un coffre en bois d'acacia, recouvert d'or. Sur ce coffre, le couvercle, le propitiatoire. Faisons le parallèle et la correspondance avec le texte que nous venons de lire. Dans le coffre contient les tables de la loi, les 10 paroles. Paul vient de dire ici que nous sommes une lettre de Christ. Les 10 paroles de Dieu sont la lettre de Dieu pour le peuple. Et Paul va dire que nous sommes une lettre de Christ écrite par le ministère de la prédication, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair. Les 10 paroles, la loi de Dieu, est inscrite dans nos cœurs, dans notre esprit. Je prends un texte qui se trouve dans Hébreux au chapitre 8e, Hébreux chapitre 8e et au verset 10e. Hébreux chapitre 8 et au verset 10. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et vous voyez ici l'action de Dieu, ce n'est pas mettre la loi, ses lois, non pas seulement les 10 commandements, puisqu'il est question de mettre ses lois, plus qu'Exode 20, mais tout l'ensemble de la volonté de Dieu, de mettre dans notre cœur, d'inscrire dans notre esprit. Et dans Ézéchiel, Dieu dira à propos de l'homme, j'ôterai son cœur de pierre et je lui donnerai un cœur de chair, j'écrirai mes lois dans son cœur, et je ferai qu'il obéisse et qu'il accomplisse et qu'il observe mes lois. Le coffre de Dieu, le coffre du lieu très saint, représente notre cœur et notre esprit, dans lequel Dieu inscrit ses lois. De sorte maintenant que les lois de Dieu, par son esprit, en nous, nous devenons en tant que personne une lettre de Christ pour tous les hommes. Lui est connu. Le message, la parole de Dieu, avant que ce soit un support, est avant tout des personnes que vous êtes et que je suis. Dieu a un message, une lettre, un courrier pour ce monde, un message d'espérance, une lettre d'avertissement, un courrier dans lequel Dieu indique que les temps de l'histoire de ce monde vont finir et que le monde de Dieu va s'installer. Et Dieu nous utilise Nous, personnellement, non pas en présentant un support, des écrits, mais nous sommes des personnes, nous sommes le message de Dieu, nous sommes la lettre de Dieu. Lu, dira l'apôtre Paul, connu. Alors je pose ici la question, comme je me la suis posée à moi-même en préparant ce partage pour nous ce matin. Est-ce que je suis connu? Est-ce que je suis lu? Est-ce que le peuple adventiste est connu? Est-ce qu'il est lu? Est-ce que le peuple adventiste, l'Église, est la lettre de Christ? Pour un monde qui méconnaît, pour un monde qui ignore les desseins de Dieu, une lettre a pour but justement d'annoncer quelqu'un des situations, des événements, bons ou pas bons. Une lettre, afin que vous annonciez. Une lettre est constituée d'un papier qui contient une écriture. Et l'ensemble des deux, papier, support et l'écriture qu'il contient, constitue la lettre. S'il n'y a pas de papier, où écrire? Mais si ce n'est qu'un morceau de papier sans écriture, ce n'est plus une lettre. Chers frères et sœurs, est-ce que nous qui sommes le papier, le coffre, Dieu a-t-il écrit quoi que ce soit pour que nous devenions, pour que nous soyons l'être de Christ? Souvent, ce n'est pas un reproche que je le fais, mais il nous faut revenir à ce qui est essentiel. Souvent, nous voulons présenter une doctrine, un enseignement, des prophéties, des principes. Mais cela n'a pas d'espèce importance si en même temps nous ne sommes pas nous-mêmes en tant qu'individus et chrétiens le message de Dieu pour ce monde qui va vers sa fin. Vous êtes une lettre de Christ. Nous sommes le coffre de l'Alliance dans lequel est contenue la loi de Dieu. Rappelez-vous, le sanctuaire a été mis au milieu du peuple d'Israël afin de rassembler Israël. Le sanctuaire est un moyen par lequel Dieu s'approche du peuple. Les sacrifices qui sont offerts dans le sanctuaire est un moyen pour le peuple de s'approcher de Dieu. Nous sommes au milieu d'un monde et Dieu veut diffuser son message. Vous et moi, là où nous sommes, importe, à l'école, au lycée, à l'université, au travail, dans une pharmacie, à la boutique, dans un supermarché, un arrêt de bus, sur le trottoir, et que sais-je encore. À chaque fois, nous sommes un message, une lettre, que Dieu, s'il ne l'a pas fait, inscrit sa loi au-dedans de nous. Et s'il l'a fait, que cette loi soit indélébile, afin d'être jusqu'à notre dernier souffle, et jusqu'au retour de Jésus, sa lettre pour les hommes, une lettre d'espérance pour un monde en désespérance. Je vous invite à méditer sur ce passage en entendant la lecture du cantique 340, première strophe, que nous chanterons tout de suite après. 340, la lecture de la première strophe et du refrain, tout de suite après la lecture. Nous chanterons dans une forme de méditation cette première strophe.
Viens, viens mon âme, te réclame car c'est toi qui m'as cherché pour te suivre. Je te livre mon cœur avec son péché. Viens, mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi.
Chantons ensemble cette première strophe. En restant assis. Thank you.
Satan. Je t'implore.
Je t'implore.
Ô Jésus, demeure en moi. De Corinthiens, chapitre 2. De Corinthiens, chapitre 2. Nous lirons les versets 14 à 16.
Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur du Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses ?
Merci. Nous quittons le lieu très saint et nous nous rendons maintenant dans le lieu saint. Ici, notre attention est le mot « odeur ». Relisons le verset 15, si vous voulez bien. Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. L'autel des parfums qui diffuse une odeur. Un parfum a pour but aussi d'annoncer la venue imminente de quelqu'un. Si nous sommes habitués ou quelqu'un est habitué à mettre le même parfum depuis des temps, avant même que nous le voyions s'approcher, son parfum le précède. Et parce que nous connaissons le parfum et la personne, nous pouvons à juste titre désigner sans nous tromper, c'est quelqu'un qui arrive. Chers frères et sœurs, est-ce que nous diffusons le parfum, l'odeur de Dieu ? Dans les coutumes et dans les usages des hommes, nous avons chacun d'entre nous l'odeur que dégage notre propre corps naturel, qui nous est particulier. Chaque être, chaque individu, chaque personne, son corps dégage, diffuse son odeur qui lui est propre. Et parce que parfois nous ne sommes pas satisfaits de cette odeur que nous dégageons, que dégage notre corps, alors qu'est-ce que nous faisons dans l'usage des hommes ? Nous achetons un parfum, un déodorant, et nous diffusons ce parfum sur nous. Dans le but d'une convivialité, nous estimons à juste titre cela est bon que les autres nous apprécient le parfum que nous portons. Cela nous rend convivial auprès des autres. Et nous apprécions aussi l'odeur d'une personne parce que son parfum ne nous insupporte pas, mais est agréable. Et nous côtoyons ainsi des personnes. Quand nous passons devant quelque chose ou quelqu'un ou quelque chose qui dégage une odeur nauséabonde, nous avons un mouvement de recul. Et cela s'est traduit parfois sur notre visage par des expressions. Naturellement, une mauvaise odeur n'est pas agréable à sentir. Chers frères et sœurs, nous sommes la bonne odeur de Dieu. Et remarquez avec moi que Paul dit ici, une odeur de vie donnant la vie, ou une odeur de mort donnant la mort. À chaque fois que nous avons une odeur de vie donnant la vie, parce que nous nous sommes parfumés chaque jour de la tête aux pieds de Jésus, qui est notre parfum divin. Et je parle ici dans un langage imagé. Christ en moi est vivant en moi. Je dégage son parfum, son odeur. Je ne suis pas le parfum, mais je suis l'odeur. Quand nous estimons que quelqu'un a un parfum qui est excellent, d'un odorat, d'une odeur excellente, comme jamais nous n'avons connu d'un parfum, parfois nous pouvons questionner la personne. Mais dites-moi, un tel, quel est ce parfum ? Alors il va nous indiquer la marque du parfum, le prix du parfum et l'endroit où il est acheté. Remarquez avec moi que nous ne désirons, l'homme ne désire pas savoir questionner sur la personne qui porte le parfum. il n'est pas nécessaire de le questionner sur sa vie, sa date de naissance, où il habite, quel métier. C'est le parfum qui nous intéresse et non pas la personne elle-même. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas l'église adventiste qui intéresse les gens, mais Jésus. Et en connaissant Jésus, alors ils connaîtront inévitablement l'église de Jésus. Mais pour cela, il faut que nous dégageons chaque jour que Dieu fait la bonne odeur de Christ. Christ est notre parfum. Nous dégageons son odeur parce que sur nous et en nous, nous avons mis Christ. Ainsi, nous sommes l'autel des parfums pour diffuser dans un monde qui sent mauvais spirituellement l'odeur agréable de Jésus. Que dégage comme odeur moi qui suis croyant et adventiste? Que dégage comme odeur l'église de Jésus-Christ, les adventistes du septième jour? Sommes-nous satisfaits si physiquement, et je parle au sens et aux choses matérielles, physiques et terrestres, que quelqu'un dise que nous sentons mauvais? Cela va nous décevoir, désorienter, nous faire réfléchir sur notre hygiène de vie. Mais là, nous parlons d'une hygiène spirituelle. Combien de fois n'avons-nous pas senti mauvais parce que, chers frères et sœurs, et je vous le dis pour vous et pour moi, nous sentons bon spirituellement que lorsque le parfum Christ est en nous et sur nous. Nous sentons mauvais spirituellement quand Jésus est absent de nous, en nous et sur nous, parce que nous dégageons naturellement notre propre vieil homme. Une odeur de vie donnant la vie, une odeur de mort donnant la mort. À ceux qui sont sauvés, autrement dit, dans l'Église, et à ceux qui périssent en dehors de l'Église, déjà cette odeur doit être diffusée, véhiculée entre nous ici. Si entre nous, nous nous sentons mauvais, si nous avons des querelles, si nous avons des divisions, si nous avons des jalousies, si nous avons de l'envie, quoique les raisons que nous pouvons toujours apporter sont justifiées et justifiables sur le plan humain, mais sur le plan divin, aucune raison ne passe devant Dieu quand il y a querelle, division, envie, jalousie dans son Église. Croyez-vous que le bras droit est jaloux du bras gauche, mais l'un a besoin de l'autre? Croyez-vous que la tête est jaloux des pieds? Personne ne marche sur la tête ici, nous avons besoin des pieds, et là où nous mettons les pieds, peut-être que nous n'allons pas mettre les mains. Croyez-vous que la division, les querelles, les jalousies dans l'Église vont faire en sorte que l'Église dégage la bonne odeur de Christ? Mais alors nous sommes en train de faire l'œuvre du diable qui est justement doter le Christ en nous et parmi nous afin que nous diffusions nos propres odeurs. Et la propre odeur naturelle de l'homme est une odeur qui sent mauvais spirituellement. C'est en Jésus et par Jésus, en vertu de son sacrifice, que nous dégageons la bonne odeur de Dieu. Nous sommes l'autel des parfums. Dans le lieu saint, chaque jour, à cause des sacrifices quotidiens, le sang était mis sur les quatre cornes de l'autel. Au fur et à mesure, le sang, là, qui est en train d'entrer, de se décomposer, l'odeur du sang, 1000 sacrifices, en longueur de journée, le sang est mis sur les quatre cornes de l'autel des parfums. Ainsi, à un moment donné, ça commence à dégager une odeur de putréfaction dans le sanctuaire. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Aaron, au prêtre, mettez de l'encens avec un feu étranger, car Dieu ne peut pas habiter dans un lieu où ça sent mauvais. Et l'encens, le parfum odoriférant avec les matières utilisées, et les quantités de matière utilisées, est un parfum divin, sacré. Et ainsi, quand l'autel des parfums dégage le parfum dans le lieu saint, cela parfume le sanctuaire, voire même dans le lieu très saint. Nous sommes le parfum, l'autel des parfums de Dieu dans ce monde, pour parfumer, pour apporter une odeur aux hommes qui sont sans Christ. Nous ferons la lecture de la deuxième strophe du cantique 340. Lecture du cantique 340, deuxième strophe que nous chanterons après.
Oui, ta grâce seule efface toutes mes iniquités. Tu pardonnes, tu me donnes la paix de tes rachetés. Viens, mon âme te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi.
Matthieu, chapitre 5e et au verset 14.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Toujours dans le lieu saint, nous avons ici un élément qui est important, le chandelier à 6 branches contenant 7 lampes avec la branche essentielle et importante. Vous êtes la lumière du monde. Mais juste avant de continuer, remarquez avec moi, chers frères et sœurs, que tous les textes que nous avons lus, que ce soit Paul ou que ce soit Christ, il est dit expressément « vous êtes ». Non pas « nous vivons dans la nostalgie d'avoir été et nous ne sommes plus », ni quand bien même de mettre ces considérations spirituelles dans un futur plus ou moins proche « vous serez et nous ne sommes pas encore ». Mais nous sommes, autrement dit, nous sommes constamment dans le présent. L'homme vit dans le présent. Ce qui est passé, il ne peut plus le maîtriser, ni le conditionner. Ce qui se passera, il n'a pas la main dessus. Il est constamment dans le présent. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, en ce moment, nous devrions être la lumière du monde. Est-ce que la lumière n'a pas pour but justement d'annoncer, lorsque quelqu'un qui est derrière notre porte et qu'il fait sombre et qu'il frappe à notre porte, il est important que le couloir ou devant la maison soit éclairé. Nous allumons la lampe d'extérieur, ce qui nous permet de distinguer le visage de la personne qui frappe à notre porte. La lumière a pour but d'être éclairée soi-même, d'éclairer les objets et de pouvoir distinguer les choses. Vous êtes la lumière du monde. Mais si nous sommes lumière, ce n'est pas le produit de notre propre nature. Mais nous en sommes que le reflet. Et celui qui est lumière par nature, c'est Christ. Parce qu'avant de dire « vous êtes la lumière du monde », Jésus a bien dit dans les chapitres précédents « je suis la lumière du monde ». Et dans cette lumière, il y a la vie. Nous ne sommes la lumière que parce que Christ en nous. Et nous sommes son reflet. Christ en dehors de nous, nous redevenons ténèbres. Et Dieu qui a dit que la lumière soit, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour que nous nous diffusions la lumière Christ à ceux qui sont assis dans les ténèbres de la mort. Le monde est un monde, chers frères et sœurs, avec le temps qui passe, est un monde dans la désespérance sur tous les points, et sur le point spirituel plus encore. Il existe 40 000 communautés chrétiennes qui se réclament
du protestantisme dans le monde, 40 000. En dehors de l'Église catholique. Et parmi ces 40 000, il y a l'Église adventiste. Alors vous voyez, la concurrence est dure. Et quel message ? Alors vous me direz, oui, mais tout le monde parle de Christ. Oui. Parler de Christ, c'est facile. Mais vivre selon Christ, c'est difficile. Et justement, l'adventiste, avant de parler, il faut que Christ vit en lui. Qu'il se taise d'abord. Et qu'il demande à Dieu, à Christ, viens habiter en moi par ton esprit. Afin que toi en moi et moi en toi, je diffuse la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. C'est toi que je veux diffuser. Je ne veux pas diffuser l'adventisme, ni les principes d'une église, si bon soit-il. Mais c'est Christ que je vais diffuser. Parce que ce n'est pas l'église adventiste qui est morte sur nous, sur la croix, mais c'est Jésus. Nous sommes des adventistes du septième jour parce que nous croyons, nous espérons dans la venue de Jésus et parce que nous croyons. Mais au point où nous en sommes, chers frères et sœurs, croire est devenu maintenant une activité intellectuelle. Mais ce que demande Dieu, c'est de nous préparer à le recevoir. Un peuple purifié, zélé et préparé. En même temps, un peuple qui, dans sa préparation, diffuse et annonce le message. Maintenant que les gens écoutent, qu'ils se convertissent, ça c'est une autre histoire. Mais nous éclairons tous les lieux des ténèbres et nous allumons l'interrupteur qui est Jésus. Et ceux qui veulent sortir des ténèbres et entrer dans la salle de lumière, Jésus, qu'ils viennent. Et Dieu les appellera. Chandelier, sept lampes. Mais pour que la lampe brille, il faut qu'il y ait de l'huile qui passe ici dans les conduites. Si nous supprimons l'huile, il n'y a pas de lumière possible. Il y a le chandelier. Ça, c'est nous, l'instrument. Jésus marche au milieu des sept chandeliers. Et les sept chandeliers, dit Apocalypse au chapitre 2, sont les sept églises. Nous sommes le support chandelier. Dans ces conduites circulent et véhiculent l'huile. Ainsi, l'huile, au contact du chandelier, produit la lumière. L'huile représente le Saint-Esprit. Je suis le chandelier et l'huile, le Saint-Esprit en moi, produit Jésus qui est la lumière. Non pas que Jésus soit sept Jésus, d'accord ? Mais c'est la plénitude, cette plénitude de la lumière. Cette perfection de la lumière. Plénitude, pourquoi ? Parce qu'il n'est pas un quart, moitié ou demi rempli, plein. Cette lumière est la perfection, parce qu'elle est Christ. Prenons Ésaïe au chapitre 11. Jésus a été la lumière du monde parce qu'il était rempli de l'Esprit. Et prenez avec moi, je ferai la lecture de Ésaïe au chapitre 11 et au verset 1 et 2. Jésus était rempli de l'Esprit. Et c'est ainsi qu'il pouvait être la lumière du monde, puisque Ésaïe dit à son sujet ces propos que nous trouvons dans Ésaïe prophétisant sur le Christ. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, de la descendance d'Ésaïe passant par David. Rameau, ce n'est pas un arbre, c'est déjà un morceau de verdure, de nature. Et un rejeton naîtra de ses racines. Et remarquez avec moi ce qui suit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alors nous avons ici le chandelier avec les sept conduits d'huile. Un ici, le conduit principal. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. L'Esprit. Lisez avec moi ici. Esprit de l'Éternel. Ça, c'est le pivot central. Le support. La source, la nature et l'origine de l'Esprit. Ce n'est pas un esprit de Satan, de démon, de quelqu'un, d'homme, mais c'est l'Esprit de l'Éternel qui repose sur lui.
esprit de sagesse. La dimension, non pas qu'il y ait sept esprits, mais les attributs, les dimensions, les efficiences de l'esprit. Esprit de sagesse. Esprit d'intelligence. Esprit de conseil. Esprit de force. Esprit de connaissance. Esprit de crainte. 7. Plénitude. Perfection. Plénitude remplie. Perfection de l'esprit. Et croyez-vous que Jésus ne pouvait pas être la lumière du monde avec un tel esprit en lui? Et quand il nous dit « Vous êtes la lumière du monde », la difficulté pour le croyant adventiste réside en quoi? L'esprit dans sa plénitude. Et voyez que Dieu ne nous donne pas un esprit quelconque, mais c'est vraiment une puissance. À ceux qui sont fous, stupides, folles, comme la parabole, l'esprit donne de la sagesse. À ceux qui ne savent pas discerner les temps dans lesquels ils vivent pour le chrétien, l'esprit nous donne l'intelligence, et l'intelligence, dira Job 28 au verset 28, l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. À ceux qui ont besoin des conseils et qui vont vers les devineurs et les astrologues et tous ces individus de ce genre, les personnages de cette catégorie, l'esprit donne conseil. À ceux qui sont sans force et qui sont faibles, Seigneur, aie pitié de moi, je suis sans force. Alors je veux te donner mon esprit dans lequel il y a une dimension de force. À ceux qui sont dans l'ignorance, mais je méconnais la parole de Dieu, je ne peux pas comprendre. L'Éternel dit, je te donne mon esprit dans lequel il y a une dimension de la connaissance. Un chrétien ne peut pas remettre au calende grec la vérité contenue dans la parole de Dieu. Il doit être un homme fait, se nourrir, non pas du lait, quoique le lait est essentiel au commencement de la naissance. Mais personne ici, à l'âge adulte, à ce midi, va boire un verre de lait et téter du biberon. Il aura à sa table de la nourriture solide. Et voilà ce que nous sommes devenus. Chers frères et sœurs, il y a combien d'années, depuis combien d'années sommes-nous des adventistes du septième jour? Alors quand j'entends des adventistes dire, ben, je ne comprends pas la parole de Dieu, je ne connais pas, je ne peux pas témoigner, je ne peux pas annoncer. Permettez-moi de vous dire, une des dimensions des efficiences de l'esprit, c'est de donner la connaissance à celui qui est ignorant. 7. Esprit de crainte, qui est plus que le respect. On peut respecter quelqu'un sans le craindre, mais parce qu'on craint quelqu'un, il y a forcément l'implication du respect. Crains Dieu et observe ce commandement. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Crains Dieu et observe ses commandements. Lesquels commandements nous avons vus, Dieu met dans nos cœurs pour que nous les observions. Comme quoi le mérite, lorsqu'on observe les commandements de Dieu, ne revient pas à nous, mais c'est cette capacité que Dieu donne de mettre ses lois, non pas dans un cœur de pierre, mais dans un cœur de chair. Autrement dit, il faut qu'il y ait une transplantation spirituelle du cœur. Le cœur de pierre, c'est un cœur qui est malade, souillé. Et Dieu, le chirurgien céleste et divin, va faire une transplantation spirituelle du cœur. Il ôte le cœur de pierre et il met un cœur de chair. Il ne raccommode pas, il change. Et dans ce cœur de chair, Dieu imprime par son doigt, par son esprit, ses lois. De Genèse jusqu'à Apocalypse, et ainsi nous devenons un message de Dieu, et ainsi nous devenons une odeur de Christ, et ainsi nous devenons la lumière du monde. Troisième strophe du cantique 340, pendant que nous le chantions.
Ah, demeure, à chaque heure, mon rempart, mon défenseur, ma victoire et ma gloire. Ô Jésus, mon seul sauveur, viens, mon âme te réclame, mon bonheur est en toi, je t'adore, je t'implore. Ô Jésus, demeure en moi.
À demeure, à chacun, mon rempart.
ma victoire.
Ma victoire
et ma gloire.
Et ma gloire.
Ô Jésus, mon seul sauveur. Viens mon âme,
viens mon âme, te réclame.
Mon bonheur est tout en toi,
est tout en toi.
Je t'adore, je t'implore. Ô Jésus, demeure en moi. Maintenant, nous sortons du lieu saint et nous y allons dans le parvis. Matthieu, chapitre 5 et au verset 14, 13 plutôt. Matthieu, chapitre 5 et au verset 13.
Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes.
Lévitique, chapitre 2 et au verset 13. Lévitique au chapitre 2e, à propos du sel, et au verset 13e, Lévitique 2, verset 13. Voici la prescription que l'Éternel donne à Moïse pour qu'il les transmette à son tour au prêtre et au sacrificateur. Tu mettras du sel sur toutes les offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Offrez vos corps comme un sacrifice. Paul dira dans Corinthiens, les païens sont devenus une offrande agréable à Dieu. Et comme toute offrande, le sel doit y être mis. Je ne vais pas ici m'attarder sur l'aspect théologique du pourquoi du sel, mais juste dire ceci dans Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre. Le sel, ça sert à quoi? Ça sert à apporter une saveur dans le texte qui vient d'être lu. Il est possible, spirituellement parlant, si nous sommes le sel de la terre, d'être un sel qui n'est pas salé. Or, biologiquement, chimiquement, physiquement, il est impossible qu'un sel ne soit pas salé. Mais spirituellement, le sel perd sa saveur. Le sel a pour but d'apporter une saveur à quelque chose qui est fade. Supposons dans la cuisine, celle qui va faire la cuisine a du sel et que lorsqu'elle prépare un plat, qu'elle ait du sel dans l'armoire à cuisine, c'est une chose. Mais pour qu'elle soit efficace et utile, il faut sortir le sel du placard, première chose. Enlever le couvercle, deuxième chose. Mais le sortir du placard, enlever le couvercle, ce n'est pas pour autant que votre carie aura du sel. Au moment où il sera efficace, c'est prendre le sel et le mélanger aux aliments. Ainsi, aux aliments, il donne une saveur. Je suis en train de vous dire ceci, le Christ le dit. Nous sommes le sel. Pour ne pas vivre dans notre coin, en communauté, en autarcie. Mais nous devons être mélangé au monde. J'ajoute ici un grain de sel au contact de l'aliment. Jamais le sel prendra le goût de l'aliment, mais l'aliment prendra le goût du sel. Ce que je suis en train de dire au contact du monde, jamais le sel que nous sommes prendra le goût du monde, mais le monde prendra le goût du sel que nous sommes. Alors je pose la question, nous sommes, que nous voulions ou non, au contact de tous, tout le temps, dans la vie, au lycée, à l'université, au collège, à l'école primaire, au travail, dans une grande surface, au dentiste, au médecin, un arrêt de bus, et que sais-je encore. Nous sommes, que nous le voulons ou non, nous côtoyons les gens, nous sommes mélangés aux personnes. À notre contact, est-ce que le monde prend notre goût? Ou alors, le chrétien que je suis est en train d'intégrer et de prendre le goût du monde. Et la difficulté aujourd'hui de l'Église et de l'Église adventiste, justement, être mélangé au monde. Alors qu'est-ce qui se passe, chers frères et sœurs? Est-ce que le monde prend la saveur de Christ? où l'Église est en train de prendre le goût du monde. Si l'Église est en train de prendre le goût du monde, et si chaque jeune, chaque adulte, chaque croyant adventiste, et tous ceux qui veulent attendre le retour de Jésus, si le monde est en train de se diluer en nous, et si le message de l'Église est en train de se diluer parmi le message des 40 000 communautés chrétiennes qui toutes se réclament de Jésus, alors j'ai bien peur que la deuxième partie du verset 9 de 1 Pierre 2, afin que vous annonciez les vertus de celui qui nous a appelés, ne peut pas se réaliser et ne se réalisera jamais. Quelles que soient les stratégies que l'Église peut inventer, quels que soient les plans, quels que soient les échafaudages, tout ça c'est des aspects humains. Mais son salut et la réussite de son mandat évangélique résident dans le fait que Christ soit une réalité dans la vie de chacun, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, depuis le simple membre jusqu'au président de la conférence générale. Nous allons prendre un récit dans Deux Rois et nous essaierons de faire une transcription spirituelle. Deux Rois au chapitre 2 au verset 21. Deux Rois au chapitre 2 au verset 21, je terminerai avec ce texte. Deux Rois au chapitre 2. À partir du verset 19 jusqu'au verset 22, je fais la lecture. Deux Rois au chapitre 2, verset 19 à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon. » Comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux de la ville sont mauvaises. Et parce que les eaux sont mauvaises, le pays est stérile, c'est-à-dire le pays ne peut pas porter du fruit. Élisée dit à ses serviteurs, apportez-moi un plat neuf et mettez-y quoi? Du sel. Et ils le lui apportèrent. Élisée alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel et non pas Élisée. C'est l'Éternel qui parle. J'assainirai ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et au verset 12, que se passe-t-il? Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Nous avons ici trois éléments. Plat neuf, sel, eau. Que constatent les gens? Les eaux sont mauvaises. Et parce que les eaux sont mauvaises et polluées, on ne peut pas arroser le sol. Et comme le sol n'est pas arrosé, les plantes ne peuvent pas produire du fruit. Et ainsi, le pays est stérile. À la fin, famine. Que dit Élisée? Apportez-moi du sel. Vous êtes le sel de la terre. Et que dit-il? Dans un sachet? Dans un plat neuf. Le vieil homme a été crucifié au moment de notre baptême. Et nous sommes devenus des êtres nouveaux en Jésus. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Le sel, le plat neuf. Parce que je suis le plat neuf en Jésus, que la vieille homme a disparu, que ma vieille nature de péché a été, et que Dieu a mis en moi un cœur nouveau, alors je suis du sel. Que fait Élisée ? Il répand les eaux, le sel dans les eaux mauvaises. Nous sommes l'Éternel, Jésus nous répand, nous qui avons été baptisés en son nom et qui sommes devenus des créatures nouvelles, ayant le sel en nous-mêmes. Christ nous répand au travers des eaux. Et vous savez que les eaux dans la Bible symbolisent le monde, les peuples et les nations. Et que fait-il? J'assainirai les eaux, apportez la sainteté, apportez la connaissance de Dieu, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les choses d'eau. Dieu, Christ nous répand dans les eaux qui sont mauvaises, et à notre contact, les eaux sont assainies, les eaux sont devenues buvables. Et ainsi, le pays n'est plus frappé de stérilité, le pays est fécond et porte du fruit. Ce qui a été possible à travers d'un récit de deux rois, ne le sera-t-il pas aujourd'hui dans notre monde contemporain et dans l'Église eschatologique adventiste? Chers frères et sœurs, en terminant, j'aimerais nous exhorter en disant ces quelques mots. Nous savons, comme dit Paul, en quel temps nous sommes. Et parce que nous avons la connaissance des temps, il est l'heure enfin de nous réveiller du sommeil dans lequel nous nous sommes plongés, afin que la lumière de Christ brille en nous. Il n'y a que ceux qui se réveillent qui entrent dans l'action. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui se réveillent voient le matin poindre, voient l'étoile du matin, l'aurore et le jour. Nous sommes de ceux qui avons à un moment donné de nos vies dit à Jésus, je veux être ton disciple, je veux te suivre jusqu'à la fin, je veux que tu sois le sauveur de ma vie. C'est la raison ce matin pour laquelle je nous invite à dire ceci à Christ. Seigneur, je laisse de côté mes heures m'en passées. Ce matin, je prends la décision, une fois nouvelle, que tu viennes habiter en moi, que je sois ta propriété exclusive et que tu sois le propriétaire exclusif de ma vie. Viens habiter en moi, Seigneur, et que lorsque tu reviendras, rien ne nous séparera de toi. Nous irons à ta rencontre comme toi tu viendras à notre rencontre. Et nous allons vivre avec toi dans l'éternité, où il n'y aura ni cri, ni douleur, ni mort, ni souci, ni peur, mais c'est la félicité éternelle. Voilà le monde que Dieu nous propose pour nous, pour son peuple. Que Dieu nous garde et qu'il nous bénisse. Amen.